première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
Le temps qui unit ces trois artistes, Catherine Braqueler, par le mot chronique.
Le temps, mais aussi l'histoire, la petite, la grande. Les trois artistes à la fois sont assez autobiographiques et en même temps élargissent leurs propos à commenter, à garder la mémoire de la grande histoire. Plutôt avec ses chaos qu'avec ses grands moments de bonheur. Mais est-ce qu'il y a des grands moments de bonheur de la grande histoire ?
Au centre de la gravure et de l'image imprimée à la Louvière, chronique, trois expositions jusqu'au 3 mars. Avec Thierry Lenoir, Daniel Nadeau, Frédéric Ponel, Catherine de Braqueler et Églantine Lebac du Centre d'Edibulenco, qui expose Les Incongrus et ce jusqu'au 5 mai. Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Délibule et Églantine Lebac, et vous parlez dans une émission qui a trait à un centre qu'a créé le fondateur du Délibule, puisqu'il était directeur, à savoir André Balthazar.
Oui.
Vous connaissez l'histoire ?
Oui, en effet, André Balthazar était à la base de la création de ce centre de la gravure. C'est un peu oublié aujourd'hui, c'est un peu dommage. Je sais que Jacqueline essaie, donc son épouse, de remettre à l'honneur aussi le rôle qu'il a joué, parce qu'il est quand même à la base de la création de toutes ses collections, de tous ces artistes qu'il a côtoyés, qui ont fait partie de ces collections du centre de la gravure. Et donc, oui, de la mise en place de ce musée ici, qui aujourd'hui a un rôle assez important au niveau de la valorisation de tout ce qui est impression.
Il y a quand même de la violence qui unit ces trois artistes.
Il y a de la violence, c'est sûr. Les armes sont présentes chez les trois. En même temps, l'humour, la dérision, l'autodérision les relient également. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est peut-être aussi pour ça que je les ai reliés tous les trois, c'est que ils sont tous de biais. Il n'y en a aucun qui aborde les choses de manière frontale.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez, au cinquième.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Aleschinski.
Authentique, me tento, tententententum, stélie.
Le monde invisible.
Au centre de la gravure et de l'image imprimée, à la Louvière, chronique. Trois expositions, jusqu'au 3 mars. Avec Thierry Lenoir, Daniel Nadeau, Frédéric Ponel, Catherine de Braqueler.
Daniel Nadeau, les pires désastres sont comptés.
La guerre est une chose qui m'a toujours absolument horrifié. Donc elle apparaît à travers beaucoup des dessins qui sont là. Et le personnage qui a été le démarrage de ça, c'est mon grand-père qui avait fait la guerre de 14. Et quand on m'a proposé d'exposer au musée d'Ypres en 2008, c'est ça, j'étais fou de joie parce que c'était l'occasion de le rencontrer, lui, dans son histoire, et d'amener la mienne, qui est complètement hors du champ de l'histoire de l'époque, quoi. Et pour le catalogue de cette exposition, j'ai fait un album de coloriage avec uniquement des objets qui concernent cette guerre. Mais pour ne pas évoquer la morbidité trop forte de cette histoire, j'ai mis dans chaque planche un animal, soit en voie de disparition, soit disparu. Ce qui m'a permis à la fin de faire des légendes, et dans les légendes, de décrire la guerre, mais à travers un animal dont la responsabilité de sa mort est souvent tenue par nous. Soit par déforestation, soit pour sa viande, soit pour de multiples raisons, très mauvaises en général.
Daniel Latour.
Voilà. Après, j'ai eu l'opportunité de travailler sur un livre en Suisse qui était la reprise d'un livre de recettes édité en 1917 en faveur des zones occupées en France. Donc c'est des recettes de famine en fait, c'est-à-dire où on peut manger avec très peu de choses. Il y a de l'eau, des oignons, du sel, un peu de gras parfois, du beurre pratiquement jamais, de la crème fraîche non plus. Donc là je me suis amusé à faire des dessins autour de ça. Donc ça a été la deuxième publication, et puis celle-ci est plus récente. Et là je suis rentré dans une guerre qui m'est plus proche, c'est celle d'Algérie.
Et je pensais en venant ici à la Louvière que cette ville qui est toute petite a quatre foyers culturels très importants. Je pense à Keramis, oui. Musée Yankelevici, Centre de la Gravure et Centre du Délibule où nous sommes. C'est assez extraordinaire, c'est un peu unique.
Oui, c'est unique. Il n'y a pas longtemps, on a eu une journaliste française d'ailleurs qui est venue faire un reportage, qui était tout à fait étonnée de voir... de patrimoine culturel au centimètre carré, pratiquement ici à la Louvière, donc, et dans des domaines différents, que ce soit l'impression, que ce soit la céramique, que ce soit le centre des Libulles, nos archives, ou le musée Yankelevici avec ses sculptures particulières, mais aussi toutes les collections de la ville, hein, qui sont assez phénoménales aussi.
Chez Thierry, on peut presque parler des facéties d'un clown triste.
Ben, Catherine a tout dit en fait, hein. Je reflète les émotions que j'ai à certains moments. Les navetteurs, c'est parce que j'ai pris le train pendant 20 ans pour aller à mon travail, de la province à Bruxelles. Et des scènes de ménage que j'ai appelées « C'est l'amour ». Des repas à table, le couple sert en fait le plat de son rival ou de son amant, de son mari, et lui fait manger des trucs qui sont vraiment immangeables et qui ne correspondent pas du tout au personnage, quoi.
Paul Bury disait que la Louvière était une ville qui était une des plus moches au monde.
Frédéric... Pour moi, c'est une sorte de marionnettiste, et en particulier, parce que j'ai eu l'occasion d'en voir à l'époque, ces marionnettes des ombres, les marionnettes indonésiennes, je vois des similitudes. Donc par l'ombre, il raconte des choses.
Je pense qu'en fait, et je l'ai remarqué aussi en lisant la biographie de PJ dont on vient de recevoir le fond, qui s'est inspiré en fait de cette laideur quelque part.
Tout mon parcours ici au centre de la gravure a toujours été de montrer que la gravure, les stamps, l'art imprimé, que beaucoup mettent dans une case... Eh bien non, c'est plein de choses, ça participe pleinement à exprimer l'art contemporain, l'actualité. Et je crois qu'ici, on le voit de nouveau, avec trois univers différents, pour qui tous passent par le biais de l'art imprimé, mais sont complètement dans les enjeux de l'art actuel. Mais en même temps, quand on est dans l'art contemporain, il y a tellement d'artistes ou de lieux, de foires, où finalement on voit un peu toujours la même chose, il y a les poncifs. Si on échappe à ça, on vient vers autre chose. C'est peut-être plus modeste, c'est pas en lien avec le marché de l'art, et donc à ce titre, on peut se permettre plus de liberté, plus de dérapage, plus d'autodérision. Ce ne sont pas des artistes qui se prennent très au sérieux, qui se font des plans de carrière, et ça me plaît beaucoup, parce que ça devient trop rare de les voir dans des structures muséales. Et pourtant, c'est aussi des artistes qui comptent.
Il faut aller au-delà de la laideur, aller plus loin, pour chercher un peu à mettre en avant une certaine forme de créativité.
À chaque fois, je prends un personnage un peu dérivant. Bon, là, ce sont les animaux. Ici, c'est Belzébuth. Un personnage qui était considéré comme le maître des mouches et du fumier, qui est devenu après Baal-Zéboul chez les Hébreux et Belzébuth chez les Chrétiens. Et Belzébuth est devenu le prince des démons, ce qui est moins bien que le maître du fumier et des mouches, que je trouve beaucoup plus juste par rapport à ce qu'il fait. Donc j'ai pris ce personnage, ça englobe tout, ça permet une distance, comme ça. Avec une préoccupation constante, c'est que dans les objets que j'introduis, j'essaie d'être très précis. Là, on est dans les objets utilisés dans les années 56-60 en Algérie, c'est-à-dire ça, c'est la panoplie, en fait, du fantassin, c'est ce qu'on pouvait trouver dans l'infanterie.
Daniel Nadeau.
Une espèce de comparaison entre le champ de bataille et la table du buffet. Les viandes préparées, faisant des... Et puis ça se termine par une allégorie entre la nappe et les drapeaux. Donc je fais une association entre la destruction alimentaire et la destruction militaire, qui souvent est proche.
Quand on est dans une ville qui n'est peut-être pas au niveau architectural phénoménal, une ville comme Paris où on peut s'asseoir quelque part un peu sur son patrimoine, on va le chercher ailleurs. Et donc, est-ce que ça éveille l'imagination et la créativité? Je pense en tout cas que c'est lié à ça, donc de pouvoir se dépasser aussi dans d'autres domaines que ce qu'on peut voir facilement en tout cas.
J'ai acheté une maison en 1984 en Mayenne, qui est une région extrêmement rurale en France. Et évidemment, ma surprise a été grande de pouvoir trouver des quantités d'outils de toutes sortes, même de machines, qui étaient complètement abandonnées. Et la plupart des paysans qui les possédaient m'en ont donné. Et ils n'y accordaient aucune importance, dans la mesure où c'était inutilisable. Et ils ne faisaient même pas le rapport avec leurs aïeux immédiats. Parce qu'en fait, tous ces outils que j'ai ramassés, ils datent de soit avant la guerre de 14, soit entre les deux guerres. Et tout de suite, ça m'a rattaché à d'autres choses. J'ai regardé la pertinence de l'armement et de l'outil. Parce qu'en fait, pendant des millénaires, on a utilisé des armes qui ressemblent aux outils agricoles, qui sont même parfois des dérivés presque immédiats de l'outil agricole. Et donc j'ai fait ça, j'ai fait des planches analogiques où je mets en fait des objets agricoles précis avec des objets militaires précis. Ils se confondent. Et il y a très peu d'inventions, c'est juste des juxtapositions.
Mais Glantine Lebac, quand vous évoquiez Paul Bury, n'est-ce pas l'ombre du surréalisme qui plane au-dessus de la Louvière?
Oui, il y a évidemment cette ombre qui est là. Bon, il a participé aussi à d'autres mouvements. Donc, maintenant, il y a Achille Chavée aussi. Hein, l'ombre de Chavée plane aussi bien ici au centre des Libulles qu'à la Louvière. Donc oui, clairement des grandes figures du surréalisme, mais qui ne sont pas restées cloîtrées dans des cases, en tout cas, surréalistes. Je pense qu'ils en sont sortis. Ils sont allés au-delà aussi d'un carcan, d'une définition. Et donc, du coup, ça donne des choses aussi qui sont un peu polymorphes, comme ça, qui permettent aussi de donner des sens à une pensée comme la pensée Bulle, qui n'est pas une pensée surréaliste, mais qui a ses racines, évidemment. Donc, clairement, il y a des racines surréalistes qui sont présentes, hein, à la Louvière, clairement. Et en même temps, ben, ces racines, elles ont permis de développer des arbres qui soient un peu différents de cette espèce, on va dire.
Ensuite, on monte un étage et on arrive chez Daniel Nadeau, donc le français de la bande, le plus âgé aussi, puisqu'il a 72, 74 ans, je ne sais plus exactement. Mais
fait la guerre d'Algérie.
Qu'il a énormément marqué. Ses deux grands-pères ont fait la guerre de 14-18, en sont sortis, mais assez malmenés. C'était un peu le début de tout son travail. Depuis petit garçon, il a entendu ses grands-pères évoquer à la fois de manière très discrète et en même temps très violente, parfois simplement dans le geste mimé des horreurs de la guerre de 14-18.
Et puis il a perdu une sœur.
Et puis il a perdu une sœur. Bon, la mort tourne, rôde dans tout son travail. Et en même temps, c'est celui qui utilise Akoulos, c'est celui qui est le plus proche du conte, dans la manière dont il raconte les horreurs de la guerre. Et d'ailleurs, puisque chaque étage porte son sous-titre, donc là, nous sommes dans Chronique du désastre.
exemple, ce qu'on imagine être des pièges, enfin, quelque part, ça en devient. C'est ce qu'en 14, on appelait les pétards, c'est-à-dire c'était les premières grenades. Et ces grenades étaient constituées d'un bois découpé au couteau par le grenadier qui s'enterrait dans un trou. On lui amenait des charges qui étaient dans du papier, c'était vraiment rudimentaire, c'était terrifiant même. Ces charges étaient accrochées sur le bois avec un petit filet de fer ou de la corde. Et puis souvent, pour les détonateurs, il y avait simplement un clou. Donc le gars à qui ont donné la grenade, il tapait le clou et il l'achetait vite fait parce qu'il n'avait pas intérêt à la garder 3 secondes de plus, quoi. Donc j'ai fait ça pour beaucoup de choses. C'est des objets qu'on peut identifier comme pacifiques mais qui ne sont pas, ou inversement, qui paraissent guerriers et qui ne le sont pas.
Mais le désastre est raconté comme un conte. Bah, les contes de Perrault, c'est horrible. Les contes de Grimm, c'est terrible. Les contes de Nadeau, c'est pareil. C'est joli, c'est mignon, ça a l'air tout beau, tout rose. Et puis quand on commence à regarder, on se rend compte que c'est extrêmement cruel.
L'origine de tout ça, c'est mon grand-père qui, quand j'avais 12-13 ans, était très malade. Il avait des problèmes cardiaques, donc il faisait des siestes prolongées. Et quand moi j'allais en vacances chez lui, j'attendais qu'il se réveille. Et quand il était réveillé, je lui posais des questions sur la guerre dont il parlait jamais. Et j'ai été très surpris parce que tout lui a échappé. C'est-à-dire, d'un seul coup, il a commencé à me raconter des choses, à mimer. Et il devenait blême. D'ailleurs, il revivait des choses qu'il voulait pas vivre, quoi. Revivre, disons. Et c'est... Bon, j'ai pris tout... Enfin, j'ai pas pris de notes, mais c'est rentré dans ma tête, quoi. Et puis, je l'ai un peu perdu de vue. Et en 97, à l'occasion d'une blessure que j'ai eue, où j'ai été immobilisé pendant 3 semaines, j'ai repensé à ça. Et... J'ai noté tout ce qu'il m'avait raconté. Et ça a commencé par ça. C'était le premier objet déclencheur, quoi. Et la chose qui m'avait frappé, mais enfin, c'était aussi le personnage. C'était un personnage très gai. C'était pas du tout un personnage morbide. Et tout chez lui se traduisait par la dérision et le jeu. Et même quand il me mimait des scènes de guerre, parfois, bon, il devenait blême parce qu'il revivait des choses effroyables. Mais ça donnait un jeu. Il faisait des mimes, des imitations sonores. Enfin, j'étais fasciné par ça. Et je crois que j'y dois énormément parce que dans mon travail, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, je m'amuse avec le pire. Et une chose qu'on ne regardait pas directement, là, on peut la regarder. Donc, j'en joue. Ça devient une espèce de jeu. Je prends une distance. Mais néanmoins, il y a une part douloureuse qui échappe, j'espère.
Et ce qui nous ramène dans la conversation que nous avons à l'exposition qui a cours pour l'instant au Centre de la Gravure intitulée « Chronique », c'est l'aspect d'engagement. Et là, je pense à un homme de théâtre issu de cette ville, Jean Louvet.
Jean Louvet, oui.
Et puis Achille Chavé
et
aussi.
Oui.
Alors, il associe de curieux, c'est qu'il associe des instruments de guerre, des instruments agricoles. Quand on va chez lui, il y a plein de bazar partout. Tout, qu'il récolte tout, il rassemble tout, puis qu'il assemble. Et il fait du beau avec du lait, le détritus, il lui donne un statut de sculpture par une association avec d'autres choses. Donc là aussi, on est tout le temps dans le dérapage, dans le premier, deuxième, troisième degré.
Le grand pingouin, qui en fait a été détruit avant le début du 19e siècle, et par pure férocité, parce qu'en fait, on ne les mangeait pas. Donc c'était des massacres énormes, quoi, parce qu'ils vivaient en colonies de plusieurs milliers. Et c'était une espèce d'abattage gratuit, enfin, un truc horrible, quoi. Il en reste deux qui sont empaillés au musée historique de Copenhague, au Danemark. Parce que bon, les Danois en ont tué, tout le monde en a tué, hein, pas, il n'y a pas que. Tous les pêcheurs de l'époque du Nord.
Daniel Nadeau.
Daniel Nadeau.
Ou Daniel Nadeau.
Comme Maurice.
Oui, mais ça ne s'écrit pas comme Maurice, ça s'écrit AUD. Et Maurice, c'est EAU.
Bon, ça, c'est le plus connu de tous, c'est le dodo.
Ma sœur est morte, j'avais 2 ans. J'ai des souvenirs de ce moment-là. Et pour moi, ça a été comme si le monde s'effondrait sous mes pieds. C'est l'image que j'ai gardée. Donc vivre, pour moi, ça a toujours été d'être au bord du désastre, quelque part. C'est pour ça que j'ai utilisé ce mot. C'est pas par fantaisie.
Ça, c'est le rhinocéros blanc, que tout le monde connaît, enfin, qui est en disparition, mais il y en a encore quelques-uns. Ça a un sens, quoi.
Donc, Daniel, à un moment donné, dans nos discussions, expliquait que, pour lui, le guerrier et le paysan se retrouvent au niveau de la terre, au niveau du sol, puisqu'en fait, tant le guerrier que le paysan retournent la terre. Alors l'un retourne la terre dans un esprit de guerre et de mort, alors que l'autre retourne la terre pour sa germination, pour la ramener à l'ensemencement et à la vie.
Il y a plusieurs versions. Il y a une version qui dit qu'il était extrêmement bon à manger et une autre qui dit qu'il était immangeable. Mais son grand défaut, c'est qu'il n'avait pas peur des hommes. Donc il venait auprès des hommes, il ne savait pas voler, donc c'était très facile de le capturer. Et il s'est laissé tuer, en fait, quoi.
Mais la question de la mort, la disparition...
Oui, qui est très présente dans mon travail. Oui. C'est-à-dire, ce que j'aime pas, c'est être frontal, donc ça ne se voit pas immédiatement. C'est-à-dire, il y a une espèce de tendresse que je diffuse, comme ça, mais pour raconter une histoire qui n'est pas du tout dans la tendresse, quoi.
Et ce qui nous ramène dans la conversation que nous avons à l'exposition qui a cours pour l'instant au Centre de la Gravure intitulée « Chronique », c'est l'aspect d'engagement. Et là, je pense à un homme de théâtre issu de cette ville, Jean Louvet.
Jean Louvet, oui.
Et puis Achille Chavée aussi.
Oui, il y a un engagement aussi. Donc, en plus de cette imagination, de cette création, il y a aussi un sentiment de révolution, d'aller à l'encontre de l'ordre établi aussi. Bon, il y a un passé de manifestation, de le fusil brisé, etc., ici à la Louvière, qui est toujours présent. On le voit, on l'a vu encore récemment, les manifestations, les grèves, ben, il y a encore... Encore aujourd'hui, un mouvement qui est très présent. Donc ça, je pense que ça fait partie aussi des racines. Un mouvement de contestation comme le surréalisme ne peut pas naître non plus à un endroit où tout est beau, tout est merveilleux. Donc clairement, oui, c'est lié à l'histoire, à la géographie. Et donc oui, cette contestation, on la retrouve... On la retrouve au Délibule, on la retrouve dans ses chroniques, dans cette exposition. Donc oui, est-ce que c'est une marque de fabrique louviéroise ? C'est possible.
Les disparitions.
Oui.
Je pensais à ça, vous écoutez.
Oui, il y a beaucoup de ça. C'est quand je prends le parti pris des animaux, c'est le fait qu'ils soient disparus qui m'intéresse. Bon, la cause m'intéresse aussi, mais je suis très touché par le fait qu'ils aient disparu.
Vous attribuez des responsabilités aux humains ?
Pour certains des animaux, c'est certain. Pour d'autres, pas vraiment.
Les dinosaures, nous ne les avons pas connus.
Non, et puis ils sont morts de situations naturelles. Je veux dire, c'est la nature qui les a condamnés, quelque part.
Et ce sera la nature qui va nous condamner, nous ?
C'est certain. Oui. Ce que je trouve étonnant, c'est que la mort est toujours présente... Et c'est peut-être pour ça que la vie a tellement d'importance. C'est parce qu'on sait que c'est juste un passage, quoi. Et on en est très conscient. Bon, moi, j'en étais conscient enfant, parce que j'ai eu la preuve absolue de la réalité de la mort, quoi, tout de suite. Enfin, de la disparition plus que la mort, parce que je sais pas trop ce que c'était la mort pour moi, mais c'est le fait que ce qui était en train de s'installer disparaissait. C'est-à-dire qu'il y a un morceau du paradis qui était parti, quoi.
Comme chez Adam et Ève.
Oui. Oui. Enfin, ce qui est quand même assez beau dans leur histoire, c'est que ils ont eu une relation. Ils ne sont pas deux êtres perdus.
Ils ont mangé un fruit.
Oui, voilà. Le plus beau, j'imagine.
Et ils étaient nus.
Oui, oui.
Et cette histoire d'Algérie, pourquoi ?
Mais je suis allé en Algérie après la guerre, heureusement pour moi, parce que j'étais sur Cythère en 62, donc j'ai été incorporé en 63. Et je suis allé en Algérie parce que je suis passé devant un officier orienteur, enfin avant, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que je voulais déserter. Et puis quand les accords d'Évian sont passés, je me suis dit, je fais pas ça parce que je vais briser pas mal de choses, ça sert à rien, quoi. Donc j'ai répondu à l'appel. Et à l'époque, j'avais une très mauvaise vue, je voulais jouer sur ça, mais on pouvait jouer sur rien du tout, ils avaient besoin de chair à canon, quoi. Et donc je suis passé devant un officier orienteur et il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je lui ai dit, rien. Mais il me dit, qu'est-ce que vous entendez par rien ? Je lui ai dit, absolument rien. Donc il m'a dit, d'accord, je vous prévois un voyage. Et je me suis retrouvé à Masselkébir, qui est la zone qui était louée par la France. C'était une zone de sous-marins anti-atomiques, une zone souterraine.
enfin atomiques et autres. Et donc moi j'étais sur le dessus avec l'infanterie de marine et la Légion. On était chargé de garder la zone, quoi. Donc j'ai posé des barbelés pendant de longs mois. Donc j'ai vu plutôt les conséquences de la guerre que la guerre elle-même. Parce que j'ai vu là où j'étais, dans les villages.
Qu'est-ce que vous avez vu ?
J'étais à Bousfer, c'était un petit village dans la zone. Ce qu'on voyait, c'était une espèce de déchéance. Il y avait un bordel militaire. Le bordel militaire était uniquement approvisionné avec des Algériennes, évidemment. Donc il y avait des quantités de mecs qui essayaient de les tuer, parce qu'ils n'essayaient pas de nous tuer, nous. Ils essayaient de tuer les filles, ce que je trouve quand même terrifiant. On montait des gardes pour protéger les filles. Il y avait le problème de la boisson, c'est la grande hypocrisie de toutes les religions, dont les musulmanes, c'est-à-dire que les Algériens nous soudoyaient pour aller acheter du vin pour eux, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai vu une sorte de déchéance, quoi, une chose de... Donc après, j'y suis retourné, parce que je voulais aller plus loin, quoi. Je suis allé souvent en Algérie, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. Ce qui m'attire d'abord, c'est les paysages, que je trouve absolument étonnants. Et puis j'aime bien les êtres. Il y a des gens extrêmement chaleureux, une facilité de contact aussi, des choses... Je me suis toujours senti bien. J'y suis allé en 2003, personne ne voulait y aller parce que tout le monde avait peur de se faire assassiner. Je ne me suis jamais senti en danger. Je suis allé dans la Casbah tout seul, personne ne m'a agressé. Je sais pas, je crois que ça dépend beaucoup de soi. Si on n'a pas de terreur, je vois pas pourquoi les autres l'auraient. Je veux dire. Bon, ils peuvent envier évidemment un appareil photo, des trucs qui pourraient piquer. Et moi, j'avais rien. Je faisais pas de photos. J'ai visité pas mal de choses. Puis j'avais des amis qui habitaient là-bas. Donc c'était aussi beaucoup mieux parce qu'il y avait un passage qui se faisait par eux, quoi. Et ce qui m'a frappé, c'est la jeunesse. Il y a une jeunesse incroyable, très cultivée. Enfin, pour ceux qui suivent des études, il y en a beaucoup. Et je trouve que c'est un gâchis monumental, quoi. En fait, c'est des générations de gens intelligents, fins, qui sont oubliés, quoi.
Daniel Nadeau.
Enfin, j'ai trouvé des gens vraiment, vraiment intéressants. Très, très beaux personnages, quoi. Fuir, sûrement. Mais ils me le disaient pas. Non, ils avaient le sentiment qu'ils valaient rien. Parce qu'une fois, on avait une discussion sur les prix d'assurance. Parce que l'assurance d'un Américain ou d'un Français est assez élevée, et l'assurance d'un Algérien, c'est rien. C'est celle d'un rat, quoi. C'est vrai. Enfin, dans mon travail, il y a beaucoup ça. C'est-à-dire, je mets des choses qui sont très basses parce que c'est celles-là que je considère précieuses, quoi.
Mais le rat, il est divinisé en Inde.
Il est
divinisé en Inde.
Ah oui, bien sûr.
Vous savez ce que c'est ? C'est ce qu'il présente ?
Non.
Ce sont les âmes d'enfants disparus.
Ah, des enfants disparus.
Qui sont réincarnés.
Ah, c'est étonnant, parce que ils m'ont toujours intéressé. Moi, je n'ai pas de révulsion pour les rats, ni pour les araignées, ni pour des choses comme ça. Et dans un de mes dessins, je l'ai mis parce que c'est le roi du champ de bataille. Je veux dire, c'est... c'est l'animal le plus cynique qui soit, je veux dire. Ben, il a la nourriture vivante à proximité, la nourriture des vivants, enfin il a tout, c'est le paradis sur terre, je pense, pour un rat. D'ailleurs, j'ai vu en Algérie, dans les casernements, ils sont très présents, parce qu'il y a beaucoup de nourriture. Donc nous, on reste vivants, mais si on mourait, je pense qu'on les intéresserait.
On les mangeait à la commune de Paris.
Ah oui, bien sûr, oui.
Et le désastre, il a commencé en 14, non ?
Je pense qu'il a commencé bien avant. Enfin, en 14, c'est devenu presque un désastre organisé, construit. Mais je pense qu'il existait avant. Les campagnes napoléoniennes ont été terrifiantes. Il y a plein de choses qui ont été terrifiantes. Je ne suis pas convaincu que les Romains non plus n'étaient pas terrifiants. Les Grecs l'ont été, parce que les Spartiates étaient vraiment des combattants les plus cyniques qui soient, les plus durs.
Le monde invisible.
Le lundi 24 août, alors que nous étions, pour une bonne partie du personnel, endormis, nous fûmes brusquement réveillés à 5h10 par une explosion formidable. C'était le premier obus allemand que l'ennemi nous envoyait. Ces diables tiraient tellement bien que le premier projectile tomba juste au-dessus d'une chambre, au beau milieu du fort. Éveillant sursaut, chacun se dresse et nous avons à peine le temps de nous regarder en disant « Ça y est, le bombardement a commencé. » Que le deuxième obus lancé avec autant de précision tombait à la même place. Du coup, tout le monde saute du lit et s'enfuit dans le couloir. Nous couchions tout habillés depuis plus de 15 jours. Les projectiles se suivaient sans discontinuer.
Votre grand-père Gaston vous a-t-il parlé du bruit durant la guerre ?
Oui, bien sûr. Il m'a même fait des bruitages. Quand j'étais enfant, j'étais ahuri par ça parce qu'il m'expliquait. Il m'a expliqué comment il avait tué, par exemple, un soldat allemand à la baïonnette. Et avec la répulsion qu'il avait, après, il n'a plus voulu être dans les troupes d'assaut. Il a demandé à être éclaireur. Et il a fait ça toute la guerre. Donc c'est un miracle qu'il ait vécu parce que c'est ceux qui mouraient le plus vite. Donc il préférait partir le soir avec une petite équipe de 3 ou 4 mecs, aller repérer les mitrailleuses ennemies, enfin faire tout le truc comme ça, que de tuer, parce que c'était pour lui invivable, quoi. Enfin, ce que je comprends. Non, le bruit, il m'en a beaucoup parlé. Il n'avait jamais étudié la musique, mais il s'intéressait au son et à la musique. Il avait acheté un piano, il jouait de la piano, il n'avait jamais fait de solfège ni rien, il jouait comme ça. Il faisait tout par passion, un peu inné, comme ça.
Et comment cet univers vous traverse ? Par la plume, par la main ?
Par les deux. C'est-à-dire, bon, j'écris des textes plutôt récemment, parce qu'avant, j'écrivais beaucoup de lettres. J'avais besoin d'un interlocuteur. Et puis, depuis une dizaine d'années, je fais des textes sans interlocuteur. Mais avant, je ne pouvais pas. Et le dessin, je dessine beaucoup sur des carnets. Et puis après, j'extrais des choses des carnets. Mais ça mature plutôt dans des carnets. Puis après, je fais des suites. J'aime bien qu'il y ait une chose qui passe dans le temps.
Et les dessins, sont-ils des dessins d'après nature ?
C'est rarement d'après nature. C'est beaucoup d'après les documents. Documents scientifiques ou de guerre ou militaires, industriels. Enfin, j'aime beaucoup les dessins préparatoires à toute chose.
Comme les Allemands tiraient de très loin, il était impossible de savoir où ils se trouvaient. Et nous ne pouvions riposter. Nous n'avions donc qu'une chose à faire. Nous laisser bombarder et attendre.
Je suis plus dans le document. Et le fait de les prendre et de les traduire, ça amène une humanité. C'est comme ça que je me les approprie, quoi. Et sur la guerre de 14, j'espère qu'il va venir. J'avais rencontré un collectionneur belge qui s'appelle Philippe Osterlink. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un homme qui a mon âge, peut-être un peu plus jeune que moi. Et il collectionne depuis l'âge de 15 ans des objets sur la guerre de 14. Il a une collection fabuleuse. Et dans sa collection, il a des carnets. Et ça, c'est la chose la plus émouvante que j'ai vue. C'est des carnets tenus par des hommes de troupe, quoi. Des notes, des... J'en ai vu un passer pas chez lui, j'ai vu ça, chez un ami qui avait ça, c'était fabuleux. Il avait un carnet, le carnet d'un artilleur observateur, c'est-à-dire les mecs qui montaient sur les cheminées pour observer l'ennemi, pour donner les calculs, pour le tir. Et c'était un petit carnet avec des calculs et des descriptions de paysages. Mais c'était formidable. C'est dommage que ce ne soit pas publié parce que c'est plus beau que bien des écrits professionnels. C'était l'évocation du paysage par le chiffrage. Il y a un envahissement physique comme ça. Dans sa collection, il y a beaucoup de choses un peu troublantes, comme ça, des documents intimes, quoi. Bon, puis il a beaucoup d'objets guerriers. Mais le plus fascinant pour moi, ça a été plutôt ces choses-là. Pas guerrières, enfin guerrières dans le sens décalé, quoi.
Thierry Lenoir, que Catherine de Braqueler compare à un clown triste.
La dernière gravure que j'ai faite de la série des navetteurs, c'était malheureusement quand je ne prenais plus le train, que s'est passée la catastrophe à Beusingen. En plus, c'était le train que je prenais, quoi. Alors, c'est pour ça que j'ai été plus particulièrement touché, parce qu'en plus, dans les victimes, il y avait des gens que je connaissais de vue, quoi, parce qu'il y a eu leurs photos à un moment dans les journaux, par la presse locale, la sensation. J'ai reconnu quelques personnes, quoi, et ça m'a ému, et il fallait que je le fasse, quoi. Donc je l'ai fait des années après les premières, mais c'est conclure, malheureusement, parce que je pensais que mes sœurs étaient dedans, mais il y avait des potes aussi qui prenaient ce train-là. Mais c'était pas eux, quoi. Coup de chance. Voilà, c'est pas rigolo, mais bon. Ça s'est passé comme ça.
On monte d'un étage et on arrive chez Thierry Lenoir. Le monde du noir et blanc. D'ailleurs, la scénographie est organisée de cette manière-là. C'est un damier noir et blanc.
Entrer dans la danse, là, je reflète un peu les modes des années 70, 60, 50. Et il y en a 5 par décennie.
C'est un damier qui oscille entre le bien et le mal, le plaisir, la souffrance, la joie d'être ensemble et une énorme solitude.
J'aime bien aussi la déco et je suis collectionneur d'un peu tout ce qui bouge. Mais surtout nostalgique des années 60, l'année où je suis né.
Donc lui, si je devais le résumer, c'est un petit peu le clown triste. C'est quelqu'un qui poursuit la tradition très belge des en sort. Il y a beaucoup de masques, il y a des squelettes. On glisse constamment de la petite à la grande histoire aussi. D'ailleurs, quand il parle, il renvoie beaucoup à lui, à sa vie, à ses humeurs, ses émotions, ses moments de grand chagrin, ses moments de plaisir. Mais en fait, en regardant les pièces, on se rend compte qu'il est très modeste et qu'en fait, il est beaucoup plus complexe que ça dans son travail et que finalement, son travail évoque d'une manière... très intéressante, pleine, elle fourmille de détails très caustiques et sarcastiques, parfois très féroces, sur les dérapages de nos grosses villes, de nos vies urbaines. C'est très urbain son travail. Enfin, il évoque les vies urbaines beaucoup plus qu'autre chose, alors que lorsque l'on monte encore d'un étage et qu'on passe chez Daniel Nadeau, donc le français...
Le dimanche 23, vers 4h du soir, on avait donc cessé le feu. Aussitôt, ces tristes nouvelles se répandirent parmi les hommes et ajoutées à celles venant de Marchauvelette, que nous devions bien croire maintenant, démoralisèrent complètement les hommes. C'était pitié de voir de grands et forts hommes, qui en temps ordinaire étaient les plus francs et les plus courageux, abattus et complètement découragés. Il y en a même qui pleuraient comme des enfants.
Mais avant de monter l'étage, Catherine de Bracolère, la figure d'un Franz Masereel me passait. En regardant
bien
ces
sûr.
Images.
Disons que leur fin était venue, qu'il n'y avait plus qu'à se rendre ou à se laisser ensevelir sous le débris du fort. Pour ma part, confiant dans la bonté de Dieu et de la Sainte Vierge, je tâchais de remonter le moral de ces hommes en donnant l'exemple. Je me couchais et feignis de dormir tranquillement. Je n'étais nullement découragé et tout en acceptant parfaitement la possibilité d'une issue malheureuse, je gardais l'espoir d'une intervention quelconque qui viendrait nous sauver.
D'ailleurs, dans tous les documents qui sont sortis, les dépliants, les textes, bien sûr, Masereel était évoqué, c'est clair. Masereel est là, Masereel qui, de la même manière que... Enfin non, Thierry Lenoir plutôt, de la même manière que Masereel, utilise l'art imprimé et toutes ses ressources aussi, de possibilités de diffusion, d'impressions multiples, très simples, sur des papiers très simples, et donc de diffuser et de garder, de fixer des moments de l'histoire pour qu'on ne les oublie pas, au même titre que l'a fait Franz Masereel.
Inutile de dire que devant la situation si critique, je priais au lieu de dormir.
Et de manière très simple, comme lui, on est dans la brutalité des noirs et blancs, d'un graphisme un petit peu brutal, très graphique, et qui donc marque plus les esprits. C'est pas du tout pictural, son travail, c'est un travail vraiment de graphisme, de traits acérés, d'images marquantes. Lorsqu'on met de la peinture, lorsqu'on met beaucoup de couleurs, on adoucit, peut-être parfois on affadit, on édulcore, on picturalise. À propos, c'est pas du tout le cas ni de Masereel, ni de Thierry Lenoir.
Vers 7 heures, on rappela tous les hommes et on nous dit que rien n'était encore perdu et qu'on venait de recevoir un courrier des Français disant que ceux-ci demandaient à ce que nous tenions bon 6 heures encore, ce qui leur permettrait d'arriver à Namur.
Aussitôt, je quitte la chambre, je rallie les hommes, mon groupe, en lançant cette bonne nouvelle. Chacun reprend plus ou moins courage et on recommence à tirer jusque passé minuit. À minuit, les Français n'étaient pas encore arrivés, et pour cause. C'était une fausse nouvelle lancée par le lieutenant. Bien pour tâcher de revoir les hommes, il avait réussi. Mon tour de service étant passé, je descendis me coucher, et je dormis cette fois plus rassuré. L'autre groupe continua à tirer. Pendant une heure ou deux, on fit même de nombreuses pertes en allemand.
Je m'appelle Lenoir. Si, j'ai essayé la couleur comme ça, mais c'est pas mon truc parce que c'est trop de travail dans l'atelier, quoique c'est pas énorme, mais il y a un temps d'attente pour que les couleurs sèchent et tout ça, et ça m'énerve.
Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que l'accrochage donc, est très uniforme, puisque l'idée était, en fait, comme tu viens de le dire, d'évoquer à nouveau le monde urbain, les maisons, les rues, et finalement des trouées dans les maisons, à peu près comme si on était face à des fenêtres qu'on voyait à l'intérieur et à l'extérieur de chacune des maisons et des pièces. Puisqu'en fait, le travail de Thierry évoque, contrairement à celui de Daniel Nadeau, beaucoup plus le monde des villes, le monde urbain, les dérives sociales, les difficultés sociales, parce que l'air de rien, et à côté de « à table », au lit, sa propre relation aux difficultés des navettes dont il a parlé, il y a quand même une volonté aussi de pointer du doigt, de sortir de l'ombre des dérives de nos sociétés en termes sociaux, en termes humains, en termes de migration, enfin, tout ce que nous connaissons comme grosse question de nos sociétés. Donc je trouve que ça va beaucoup plus loin que juste, comme il le dit, bah c'est, voilà, c'est selon mon humeur, mais quand même, ce sur quoi tu poses ton regard n'est pas un regard anodin, c'est ton regard sur vraiment quelque chose de particulier dans nos vies à nous. Et à ce niveau-là, je trouve que le fait d'utiliser la gravure, ces gravures très simples, très accessibles, sans fioritures, sans décorum, poursuit vraiment cette longue tradition de la gravure qui servait à diffuser, bien sûr, des modèles, mais aussi des idées, de donner à connaître ce qui se passait, et quelque part aussi évoque, n'est pas sans évoquer, ces choses toutes simples que l'on connaissait, ou que l'on connaît encore un petit peu, en Amérique du Sud, les papels tels que ceux de Posada ou autres. Donc c'est des choses très simples, pour parler sous, qu'il vend à des prix très modestes, et donc tout un chacun peut quelque part en même temps s'accaparer ce petit regard, ce petit moment fixé par Thierry de ce qui nous entoure.
Ce qui est incroyable, c'est la tromperie. C'est le pouvoir. Bon, là, militaire, mais quand on voit les hommes politiques, c'est l'usage de la tromperie en permanence. Enfin, nous, aujourd'hui, on en a un merveilleux exemple en France, quoi. Un joli jeune homme, bien sous tous les aspects.
Peut-être, Catherine de Bracolaire, un mot sur...
Donc, quand on pénètre des amours, on va de surprise en surprise, puisque le rez-de-chaussée est occupé par Frédéric Penel.
Oui, la bonne nouvelle, c'est le métissage des pratiques.
C'est vraiment quelque chose que j'essaye à chaque fois de mettre en avant. C'est rare ici qu'on ait des expositions de puristes de la gravure. Je trouve ça souvent un peu ennuyeux. Donc finalement, les artistes qui sont présents au mur sont plutôt des plasticiens dans un sens large et qui racontent de mille et une manières, qui s'expriment de mille et une manières. Alors parfois c'est à travers l'art imprimé, mais ça peut être aussi à travers la sculpture, ou la peinture, ou le dessin, ou même ici des installations animées. C'est un peu le fil conducteur de ce qui se passe au centre de la gravure.
Ça, j'ai lu beaucoup ce genre de choses. J'adore les témoignages, les choses de l'époque. J'aime pas trop les romans qui ont été faits d'après, enfin sauf les romans faits à l'époque. Notamment à l'Ouest Rien de Nouveau, qui est un des plus émouvants, je trouve ça, sur la guerre. Et en plus, dans ce livre, c'est un des rares où il avoue qu'il tue quelqu'un. Parce que Junger, qui est un combattant et héroïque, disons, il n'avoue jamais ça. En fait, il a dû en tuer un paquet d'hommes, mais il n'en parle pas. Dans Orage d'acier, il y a une citation à un moment qui est extraordinaire. Il se bat et en face de lui, il a des Anglais. Et il voit un jeune type magnifique, toi. Et il arrête son récit. Il décrit ce jeune homme avec des cheveux roux, enfin, qui devait avoir 18 ans. Il en décrit la beauté et il arrête là. Mais je pense qu'il a détruite cette beauté. J'en suis convaincu.
Moi, j'ai fait mes études à la Cambre, 5 années de gravure. Je suis arrivé là presque par hasard, parce que ça s'appelait à l'époque gravure et illustration du livre.
S'il faut le résumer à une phrase d'ordre technique dans le domaine de la gravure, bon, il fait des gravures sur bois, mais en fait, c'est pas du tout ça. Il fait de la gravure sur bois dans lequel il shotte et qui va ensuite donc déboucher sur des images de plus en plus animées, dans un premier temps qui sont animées parce qu'elles deviennent des installations, elles sont installées sur plusieurs plans, un peu comme si on avait des scènes de théâtre. Et puis quand on passe à la troisième partie de la salle qui lui est réservée, on est presque devant tout un spectacle animé, une installation, des vidéos, une narration, des fonds sonores, tout est en évolution.
Et en fait, mon obsession depuis toujours, ça a été de comment j'arrive à sortir de cette feuille de papier. Peut-être que dans le fond, je suis un sculpteur, j'en sais rien, mais toujours chercher ça, quoi.
C'est plein de magie, plein de découvertes successives. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans l'ambiguïté, au niveau technique autant qu'au niveau de son propos. Ça aussi, entre plaisir et souffrance, entre choses très ludiques, et puis si on regarde le détail des images qui parlent beaucoup de mort, la grande prêtresse avec sa faux est quand même présente.
Chez André Masson, il y a des choses magnifiques. Vous avez peut-être lu des extraits de Masson. Il y a pas mal écrit sur la guerre, parce que c'était un bagarreur. Je sais pas s'il aimait la guerre, mais il aimait combattre. C'était un guerrier. Pas du tout un militaire, il détestait les militaires. Mais c'était une sorte de guerrier. D'ailleurs, il a eu beaucoup de problèmes. S'il cassait la gueule à des flics, enfin, il était très violent, quoi. Et sur la guerre de 14, il a écrit beaucoup de choses, des petites choses, qui avaient été publiées chez Skira, il y a longtemps.
Et puis il y en a eu d'autres qui ont eu les gaz, comme Fernand Léger.
Bien sûr, oui.
Donc, on est devant quelque chose qui est vraiment sur la frontière. C'est la frontière.
Quand je dis que j'aurais pu être sculpteur, c'est que je suis assez bricoleur, puisque aussi, en dehors d'être artiste, je peux parfois travailler dans le bâtiment ou faire des tas d'autres trucs pour gagner ma vie, quoi. Et donc, bah, c'est des pratiques qui enrichissent, en fait, le monde de l'image.
Je dis de Frédéric que c'est un marionnettiste, mais c'est aussi un homme de théâtre, quelque part. Et vous allez voir, nous allons aller de surprise en surprise.
Votre grand-père est...
Non, il n'a pas été gazé. Non, il a été fusillé. C'est-à-dire, comme il était éclaireur, il a été pris une fois en cours de chemin. Et évidemment, quand on piquait ces mecs-là, c'était le poteau d'exécution tout de suite. Et il a une chance énorme, c'est qu'ils les ont mis sur tous les six, ils les ont mis sur le bord du parapet, ils leur ont tiré dessus. Mon grand-père, il a reçu une balle dans la joue qui est sortie par le bout du nez, mais qui n'a pas trop atteint la mâchoire, il n'était pas déformé. Donc il est tombé par terre, il devait saigner abondamment, j'imagine. Et l'officier qui ordonnait le peloton est venu et leur a tiré une balle dans la nuque. Et mon grand-père avait son casque, il n'a pas retiré le casque. Donc la balle a tapé dans le casque, l'a blessé de nouveau, mais très superficiellement, c'était pas grave. Et donc il est resté pendant 24 heures avec les morts, jusqu'au moment où il est parti, quoi. Il a rejoint les lignes.
Au centre de la gravure et de l'image imprimée, à la Louvière, chronique. Trois expositions jusqu'au 3 mars. Avec Thierry Lenoir, Daniel Nadeau, Frédéric Ponnel, Catherine de Braqueler et Églantine Lebac du Centre Delibulenco, qui expose Les Incongrus et ce jusqu'au 5 mai. Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Et puis la pire chose qui lui est arrivée, la pire, ou peut-être, je ne sais pas, il a été à Verdun, et à Verdun, Arrivé à certains moments du combat, on ne savait plus où était l'ennemi ou l'ami. C'est-à-dire, il vivait dans des trous, avec des obus, des tirs permanents. Et il est resté 15 jours perdu, sachant plus où il était. Donc il a bu dans des flaques, il a mangé des cadavres de chevaux, enfin il s'est débrouillé quoi. Il a attrapé la typhoïde, donc il a été retrouvé par des brancardiers inanimés. Et il a bougé la main, parce que quand les brancardiers prenaient les mecs, ils les déposaient sur le brancard et ils les amenaient au médecin. Mais le médecin c'était un trieur, c'était pas un médecin. Donc le médecin faisait celui-là, on peut le mettre de côté, on va le soigner, et les autres... à l'abattoir, quoi, quelque part. Et comme il a remué la main, il a été mis du bon côté. Donc, c'est pour ça que j'existe aujourd'hui. Enfin, lui, il ne la supportait pas, la guerre. Il était très... extrêmement critique. Enfin, il était pris dans la nasse, quoi.